Élisée.
Tout ce qui respire, loue l'Éternel.
Loue
l'Éternel.
Ok. Donc la prochaine fois, si vous respirez, alors il faut louer l'Éternel. Que tout ce qui respire. Tu vois, même les oiseaux, hein, louent l'Éternel. Tout, absolument tout ce qui respire loue l'Éternel. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il me donne de pouvoir à nouveau partager avec vous la parole de Dieu. Mais j'aimerais encore prier. Le frère a prié pour moi, mais j'aimerais prier. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir ta main à l'œuvre dans nos vies, dans cette région, dans cette église. Nous te demandons, Seigneur Dieu, pour la nouvelle année qui arrive, une vague de conversion, une vague de guérison. Oh Jésus, la manifestation de ton Esprit Saint, nous voulons te voir agir, que ta gloire, Seigneur Dieu, descende sur ton peuple, Seigneur, qu'on sache qu'il y a un Dieu vivant, puissant, tout puissant, qui agit encore aujourd'hui, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons voir ta gloire. Comme Moïse, nous voulons te prier, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oh Seigneur, utilise-nous, Seigneur Dieu. Nous te prions pour l'Église. Que ton Église aille de l'avant, Seigneur Dieu. Alléluia. Spirituellement et en nombre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Luc, l'Évangile de Luc, chapitre 1er. Luc 1, à partir du verset 26 jusqu'à 38. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Le verset clé de notre passage ici, c'est le verset 38. Écoutez bien. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Extraordinaire. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Extraordinaire. Lorsque Dieu est apparu à Abraham et à Sarah et qu'il leur avait annoncé la naissance d'Isaac, Sarah avait ri. Lorsque Dieu s'est révélé à Zacharie, lui annonçant la naissance de Jean-Baptiste, il a douté. Et on peut prendre encore d'autres exemples. Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse pour aller délivrer Israël, il a dit « Non, pas moi, Seigneur ». Lorsque Dieu s'est révélé à Jérémie pour dire « Va », il dit « Je suis un enfant ». Par contre, Marie a dit « Je suis la servante du Seigneur. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie s'est soumise. Elle a cru et elle était d'accord avec le message de Dieu. Dieu est capable de faire l'impossible. Et j'aimerais ajouter que ce n'est pas la seule occasion où on a vu que Marie s'est soumise sans discuter. Et elle a cru. Toujours dans Luc, chapitre 2, versets 48 à 51. Parce qu'il a jeté les yeux. Attendez, est-ce que c'est bien ce passage? Non, oui, chapitre 2. J'ai regardé le mauvais chapitre. Luc 2, verset 48. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Hein, » c'est quand Jésus avait 12 ans et qu'il était resté dans le temple et ses parents ont dû rebrousser chemin pour aller le chercher. Verset 49. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Un autre passage encore. Elle gardait cela dans son cœur. Jean 2. Vous connaissez ce passage. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Faites ce qu'il vous dira. Elle n'a pas dit, mais comment est-ce que tu parles ici à ta mère? Elle savait que bien qu'elle était maman, mais que Jésus était quand même le Seigneur, le Sauveur. Elle s'est soumise. Faites ce qu'il vous dira. Elle a gardé toutes ces choses en son cœur. Qu'il me soit fait selon ta parole. On peut dire que Marie était vraiment une servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais considérer avec vous trois caractéristiques d'un vrai serviteur de Dieu et d'une vraie servante de Dieu. Les qualifications pour être utilisées par Dieu. Et donc, nous allons prendre Marie comme exemple. Vous savez, quand le Messie devait arriver, vous savez, tout l'Ancien Testament ne parle que de la venue du Messie, du Sauveur. Une fois que l'homme avait péché, Dieu, donc dans sa grâce, dans sa bonté, donc avait prévu un plan de salut pour l'homme. Et donc, il a annoncé, déjà dans Genèse 3, 15, on a le premier message évangélique, qu'on appelle en théologie, le proto-évangile. Donc, celle-ci, on va le lire, comme ça vous voyez de quoi je parle. Genèse 3, verset 15. Où Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, ça parle déjà de Jésus à la croix, où Jésus allait écraser la tête du serpent, donc qui est le diable, et où celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça parle de la mort de Jésus. Mais Jésus est ressuscité. Alors, donc, tout l'Ancien Testament ne parle que du Messie, de la venue du Messie. Et il y avait des docteurs de la loi, des gens qui étaient spécialistes pour étudier la loi. Il y avait des scribes. Vous savez, autrefois, il n'y avait pas des livres comme maintenant, hein, où c'est imprimé. Mais il y avait des scribes, des gens qui recopiaient. Et à force de recopier, d'écrire, ils étaient des spécialistes, des docteurs de la loi. Et donc, il y avait des gens qui étudiaient les livres de Moïse, qui étudiaient les prophètes, qui étudiaient les psaumes et autres, qui étaient spécialistes de la loi. Et vous vous rappelez, lorsque Jésus est né et qu'il y avait eu les mages, venus d'Orient, quand ils sont arrivés, ils se sont renseignés, mais où devait naître le Messie? Et alors, on a été voir ces spécialistes et ils savaient d'où il devait naître. Pourtant, malgré toute leur grande connaissance, lorsque le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. La plupart de ces docteurs de la loi, ils n'ont pas reconnu le Messie. Seulement quelques-uns ont reconnu le Messie. Pourquoi cette différence? Seulement quelques-uns en Israël ont reconnu que c'était celui-là vraiment le Messie. Et même les disciples, il leur a fallu beaucoup de temps pour reconnaître qu'il est le Messie. Des gens sont venus de très loin, comme les mages, qui ont reconnu le Messie. Pourquoi cette différence? Eh bien, tout simplement parce que, eh bien, ces gens-là, bien qu'ils fouillaient la parole de Dieu, ils n'avaient pas un cœur disposé, comme notre sœur a prié tout à l'heure. Un cœur disposé, un cœur disponible. Et pourquoi est-ce que le Seigneur a choisi Marie? Eh bien, c'est parce que elle avait un cœur disposé. Un cœur disponible. Et parce qu'elle était disponible, eh bien, le Seigneur s'est révélé à elle. Si nous voulons que le Seigneur se révèle à nous ce matin, nous devons avoir un cœur disponible, disposé à recevoir, eh bien, ce que le Seigneur a pour nous. Nous pouvons tous être ensemble dans le même lieu et pourtant ne pas recevoir la même chose. Et ne pas entendre la même chose. Tout dépend de la disposition de notre cœur. Je me rappelle, lorsque j'étais adolescent, à un moment donné, j'habitais près de la mer. Et au début, quand j'étais au bord de la mer, je regardais dans l'eau, je ne voyais rien. Et puis, mais après un certain temps, étant habitué à vivre au bord de l'eau, quand je regardais, je voyais les poissons en dessous de l'eau qui nageaient. Et alors, quand les nouveaux, en fait, des amis arrivaient, on allait au bord de la mer, et quand je leur disais, regardez, regardez, et ils ne voyaient pas grand-chose, ils ne voyaient rien. Ben, parce que j'étais habitué, je pouvais voir les poissons en dessous de l'eau. Et donc, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel et que nous pouvons rater parce que nous n'avons pas un cœur disposé, un cœur disponible. Vous vous rappelez de Balaam? Hein, de Balaam? Il était sur l'âne et à un moment donné, l'ange le barrait. L'ange lui barrait la route. Et alors l'âne sur lequel il était monté, l'âne donc commençait à se mettre contre le mur. Et Balaam s'est fâché contre l'âne. Avance, avance, âne. Et l'âne lui dit, mais depuis longtemps, je te sais, est-ce que si je fais ça, c'est parce qu'il y a un problème. L'âne voyait l'ange du Seigneur et Balaam ne voyait pas l'ange. Parce que Balaam était aveuglé par sa cupidité. Balaam était tellement cupide qu'il ne pouvait pas voir l'ange. Son cœur était rempli de mauvaises choses. Et donc, pour recevoir la révélation de Dieu, il faut avoir un cœur disposé, un cœur pur, un cœur attentif, un cœur qui s'attend à recevoir quelque chose. Et parce que Marie avait un cœur rempli d'espoir, rempli d'attente, rempli d'expectative, eh bien, l'ange est venu à elle. Et elle l'a reconnu tout de suite. Elle l'a reconnu tout de suite. Dieu s'est révélé à elle. Pourtant, on pourrait dire qu'elle avait beaucoup de désavantages par rapport au docteur de la loi. Hein, je l'ai déjà mentionné, elle était jeune. Jérémie disait, je suis un enfant. Est-ce possible? Est-ce possible que Dieu me parle? Je suis un enfant. Je n'ai pas d'expérience. Je ne connais pas la vie. Et pourtant, Dieu s'est révélé à elle bien qu'elle était jeune. Elle était pauvre aussi. Gédéon a dit, je viens de la famille la plus pauvre, la plus petite d'Israël. Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser? Mais Dieu ne regarde pas à cela. Et on peut ajouter aussi que Marie était une femme. On pourrait dire que... Mais, eh bien, Dieu ne regarde pas à ces choses-là. Qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche un cœur bien disposé. Un cœur qui a soif. Un cœur qui espère en Dieu. Donc, Dieu peut nous utiliser même si nous n'avons pas beaucoup de capacités, humainement parlant, même si nous n'avons pas beaucoup d'expérience ou beaucoup d'éducation. Et je me rappelle, lorsque Jésus avait guéri l'aveugle né, je crois dans Jean 9, et alors les pharisiens n'arrêtaient pas de l'interroger. Qui est-ce qui t'a guéri? Comment est-ce qu'il t'a guéri? Comment est-ce qu'il l'a fait? Et alors, il n'arrêtait pas de lui poser des questions et l'homme lui dit, ah, vous aussi, vous voulez quoi? Il disait, mais qui es-tu toi, homme sans éducation, homme de rien, etc. Et l'homme lui a dit, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais je sais une chose, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Les pharisiens, ils étaient orgueilleux, ils disaient, ah oui, c'est ce peuple, ils ne connaissent rien du tout, ils ne connaissent rien à la loi. Maintenant, il prétend nous enseigner. Pourtant, Dieu a utilisé cet homme, cet aveugle-né. Au départ, il y avait beaucoup de préjugés le concernant. Ses disciples disaient, cet homme, pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Maître, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché? Ou bien c'est lui-même qui a péché? Mais Jésus dit, ce n'est ni à cause de ses parents, ni à cause de ses propres péchés, mais c'était afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc Dieu utilise les choses faibles et folles de ce monde pour faire manifester sa gloire. Amen. Donc Dieu choisit les choses faibles. Donc peu importe si tu n'as pas beaucoup d'expérience ou tu n'as pas beaucoup de capacité, beaucoup d'éducation, peu importe si tu as un garçon ou une fille, peu importe de quelle famille tu viens, de quel arrière-plan, peu importe de quelle nation, peu importe de quelle famille, Dieu cherche un cœur disposé. Amen. Est-ce que Dieu va trouver un cœur disposé aujourd'hui? Sommes-nous disposés? Sommes-nous disponibles pour le Seigneur? Est-ce que nous avons un cœur pur devant le Seigneur? Est-ce que nous nous attendons? Est-ce que nous avons soif du Seigneur? Et j'aimerais dire quelque chose ici, ajouter. Le caractère d'une personne se révèle par sa réaction, par sa réponse face à l'imprévu. Le caractère d'une personne se révèle à sa réaction face à l'imprévu. On a vu la réaction de Marie face à l'imprévu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Elle avait un cœur disposé. On voit son cœur disposé par sa réaction. Donc, la première qualité d'une vraie servante de Dieu, d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'être disponible ou avoir un cœur disposé, un cœur pur. Deuxième caractéristique, c'est d'être disposé aussi à prendre des risques. Disposé à prendre des risques. Être disponible, c'est une chose. Mais être disposé à prendre des risques, c'est encore un pas supplémentaire. Est-ce que je vais prendre le risque de faire ce que Dieu me demande? La manière, est-ce que je vais prendre le risque de faire les choses comme Dieu me demande de les faire? Parce qu'il y a un risque. Il y a un risque. Imagine les risques pour Marie de devenir enceinte dans sa culture. Bon, aujourd'hui, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Mais dans la culture de Marie, devenir enceinte, eh bien, à moins que son père à moins que le père de l'enfant, donc, soit d'accord pour l'épouser. Donc, il faut savoir que, donc, Marie était fiancée à Joseph. Hein? C'est pas qu'elle était libre, si je pourrais ainsi dire. Elle n'était pas libre, mais elle était fiancée. Imaginez maintenant que, voilà, le Seigneur dit, tu seras enceinte. Comment présenter la chose à Joseph? Et Joseph aurait pu l'abandonner immédiatement. Donc, elle courait le risque de ne plus connaître le mariage. Donc, son fiancé pourrait l'abandonner. Ensuite, son propre père l'aurait rejeté. Et si son père la rejetait, eh bien, elle était destinée à devenir une prostituée ou faire la manche. Elle serait considérée comme une folle avec son histoire d'être enceinte par le Saint-Esprit. On n'avait jamais vu ça auparavant. Ça ne s'est jamais passé avant et ça ne se produira jamais après. C'est quelque chose d'unique. Imaginez, peut-elle accepter une telle chose? Donc elle a pris le risque de se faire ridiculiser. Elle a pris le risque d'être rejetée par son fiancé, par sa famille, par son entourage, par son peuple, être complètement, devenir une paria. Mais elle savait que à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, rien n'est impossible. Et même si Marie ne comprenait pas toutes les implications de ce que Dieu lui demandait, mais elle a quand même accepté d'obéir. Nous ne comprenons pas toujours toutes les implications de ce que le Seigneur nous demande. Mon frère a parlé de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a beaucoup souffert. Mais est-ce que l'apôtre Paul savait tout ce qu'il allait souffrir pour le nom de Christ? C'est vrai que le Seigneur lui avait dit déjà par Ananias, je l'ai choisi et il aura à souffrir pour moi. Ok, il l'avait dit, mais bon. Il ne connaissait pas les détails. Oui, heureusement, c'est comme ça. Si le Seigneur nous disait tout, eh bien, on aurait de gros problèmes. On n'avancerait pas. On a dit, oh Seigneur, attends un peu. Mais, donc Marie, donc malgré qu'elle ne connaissait pas tout, comprenait pas toutes les implications, mais elle était quand même prête à obéir. À obéir. Et dans le verset 38 de Luc 2, est-ce que c'est bien Luc 2? Oui. On va lire à partir de verset 33. Luc 2, 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. À toi-même, une épée te transpercera l'âme. Et elle n'a pas cherché à tout comprendre, mais elle a accepté. Donc, première qualité de Marie, nous disons, elle était disponible pour que le Seigneur se révèle à elle. Elle était disponible, elle était disposée à prendre des risques. Et la troisième chose que nous pouvons dire, c'est qu'elle était non seulement disposée à prendre des risques, mais elle était aussi fidèle. Ça, c'est très important. Parce qu'il ne suffit pas d'être disponible, d'être disposé à prendre des risques, mais il faut aller jusqu'au bout. Amen. Il y en a beaucoup qui commencent, mais malheureusement, à la fin, il y a très peu. Hein. Et Marie était un modèle de fidélité. Vous savez que Marie avait la faveur de Dieu. Mais avoir la faveur de Dieu ne signifie pas sans douleur, sans difficulté. Hein, beaucoup de gens pensent, ah, puisque j'ai la faveur de Dieu, donc tout doit se dérouler comme sur des roulettes, facile, pas de problème, pas d'opposition, pas de persécution, etc. Donc tout ce que je fais, tout, on applaudit, tout le monde est d'accord avec moi. Toutes mes idées sont des idées géniales. Donc c'est comme le roi qui est dans son cortège. Il y a les policiers qui dégagent le chemin. Alors le roi arrive. Voilà. Donc tout est dégagé. Mais non. Malheureusement, il faut avancer avec beaucoup d'opposition. Beaucoup de difficultés. Et donc, Marie a connu cela. Donc, beaucoup d'opposition, beaucoup de difficultés. C'est vrai, Marie avait le grand honneur d'être la mère du Messie, le Sauveur du monde. Mais elle a connu aussi beaucoup, beaucoup de douleur. Elle a accepté à la fois le privilège et aussi les peines, les douleurs qui vont avec. Elle était prête à accepter le ridicule des gens. Elle était prête à accepter que son fiancé même était proche de la quitter. Mais j'aimerais ajouter une chose. Chaque fois que j'arrive à ce passage-là, par rapport à Dieu qui se révèle à Marie pour enfoncer cette idée du Seigneur. Vous savez, lorsque le Seigneur parle, il confirme toujours. Vous voyez, Dieu s'est révélé à Marie. Marie, tu seras enceinte. Très bonne chose. Mais il ne s'est pas révélé seulement à Marie, il s'est révélé aussi à Joseph. Et il a dit, Joseph, ta fiancée sera enceinte du Saint-Esprit. De sorte que quand Marie va raconter à Joseph, Joseph le savait déjà. Si aujourd'hui il y a un prophète qui vient te dire, voilà ce que j'ai reçu pour toi, le Seigneur doit le confirmer dans ton cœur. Le Seigneur doit le confirmer d'une manière ou d'une autre. Dieu confirme toujours sa parole. Dieu a parlé à Marie, mais il a aussi parlé à Joseph. Et donc, il n'y a pas eu d'argument. Ah oui, oui, je vois. Dieu est un Dieu sage. Dieu est un Dieu sage. Marie était la seule personne présente à la naissance et aussi à la mort de Jésus. Marie a vu Jésus arriver en tant que bébé dans le monde, mais mourir comme sauveur sur la croix. Et quand tous les disciples avaient fui, il ne restait que Marie et Jean au pied de la croix. On peut lire ça dans Jean 19, verset 25 à 26. Jean 19, verset 25. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Ça fait beaucoup de Marie, hein? Trois Marie. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc ce que je veux dire, vous voyez que Marie était présente depuis le début jusqu'à la fin. Et on voit aussi, elle était parmi les disciples le jour de la Pentecôte. Elle était fidèle. Elle était disponible pour le Seigneur. Et donc Dieu a pu se révéler à elle. Sommes-nous distraits? Sommes-nous préoccupés de sorte que Dieu ne puisse même pas nous parler? Sommes-nous comme Balaam à courir après des choses, de sorte que quand Dieu se manifeste, on ne le voit même pas? Dieu s'est manifesté et Balaam persistait dans son entêtement à vouloir aller maudire Israël. Et c'est un âne qui a vu l'ange, mais Balaam ne voyait pas. Parfois les gens disent, mais où est Dieu? Et pourtant Dieu est là. Dieu agit. Où est Dieu? Où est le Messie? Le Messie était là, mais les gens disaient, où est le Messie? On attend encore. Et il y en a qui attendent encore le Messie. C'est comme ceux qui disent, il n'y a plus de miracles. Mais si, il y a des miracles encore aujourd'hui. Mais ils ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas un cœur disposé. Ils n'ont pas un cœur disposé. Ils n'ont pas un cœur qui a soif de Dieu. David disait, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. Et lorsque l'on a soif de Dieu, eh bien, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Dieu se révèle à celui qui le cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Du temps de Samuel, avant l'époque de Samuel, il a dit Dieu était silencieux. Mais lorsque Samuel est arrivé, parce qu'il avait soif, eh bien, Dieu s'est révélé à lui. Dieu s'est révélé à lui. Dans le désert, Dieu s'est révélé à lui. Donc, soyons comme Marie, ayant un cœur assoiffé, un cœur disponible pour le Seigneur. Et soyons aussi prêts à souffrir pour le nom du Seigneur. À prendre des risques. Même lorsque les autres disent, ah, moi, je ne suis pas. Hein. ça, c'est un peu trop. Hein. Vous vous rappelez Jésus, à un moment donné, quand il prêchait, dans Jean 6, il arrive à un moment, justement, on a pris la Sainte-Seine, il disait qu'on devait manger son corps et boire son sang. Et je dis, oh là, tu vas trop loin. Et tout le monde partait. Il n'y avait que les 12 qui étaient restés. Jésus dit aux 12, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous ne partez pas? Jésus n'a pas dit, attendez, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais dire. Mais Jésus dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi est-ce que vous ne partez pas? Et puis il a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Tu as les paroles de la vie. Je prends le risque de rester parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Nous prenons le risque de rester parce que c'est lui qui tient le monde dans sa main. C'est lui qui tient ma vie dans sa main. Il est notre tout, nous l'avons chanté. Qu'il soit le centre. Qu'il soit notre tout. Je prends le risque de le suivre parce que je suis assuré en lui. Amen. Je suis assuré de la victoire. Il a écrasé la tête du serpent. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. nous avons encore plus de raisons de nous accrocher à notre Seigneur. Marie n'avait pas encore vu ça. Elle n'avait pas encore vu le Seigneur ressuscité. Nous, nous l'avons vu ressuscité. Abraham n'avait pas connu ça. Moïse n'avait pas connu ça. Les prophètes n'avaient pas connu toutes ces choses que nous connaissons aujourd'hui. Nous avons 66 livres. Les prophètes n'avaient pas les 66 livres de la Bible. Il n'y avait que des portions de la parole. Marie n'avait que des fragments. Il n'y avait que des fragments. Nous, nous avons la totalité. Nous connaissons le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Elle, elle ne connaissait pas le début et la fin. Mais nous, nous connaissons. Et donc, soyons aussi fidèles. C'est-à-dire, Seigneur, j'ai vu ta main agir. C'est vrai, ma situation actuelle, je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais je te fais confiance. Amen. Je te fais confiance. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Mais je te fais confiance. Tu as manifesté ta gloire autrefois. Tu manifesteras ta gloire aussi aujourd'hui. C'est toi qui m'amèneras jusqu'au bout. Combien de tentatives n'a-t-on pas fait pour arrêter la venue du Messie? On a voulu éliminer toute la lignée de David. Lisez l'Ancien Testament et vous verrez combien de fois la lignée du Messie était menacée. Combien ont été tués? Et même lorsque le Messie est arrivé, eh bien, Hérode a voulu tuer ce bébé. Il a fait tuer tous les bébés, tous les nouveau-nés. Il les a fait éliminer. Mais Dieu avait parlé à Joseph et Marie et leur a dit, quittez le pays à ce moment. Allez en Égypte. Et notre sauveur était réfugié politique. Quitter l'Égypte. Et c'est seulement après, quand Hérode est mort, Dieu a dit à Joseph, maintenant tu peux rentrer au pays. Donc, nos vies sont entre ses mains. Donc, n'ayons pas peur. Continuons. Malgré vent et marée, malgré les oppositions, malgré les persécutions, parce qu'il y a une couronne qui nous attend. Amen. Il y a une couronne qui nous attend. Il y a une récompense qui nous attend. Et comme le pasteur l'a dit, on est déjà sauvé, mais il y a aussi une couronne qui nous attend. Il y a une récompense qui attend ceux-là qui sont fidèles. Est-ce que nous voulons être fidèles? C'est important, ma bien-aimée, d'être fidèle. De ne pas simplement commencer, mais d'aller jusqu'au bout. D'aller jusqu'au bout. C'est très, très, très important. Et dans le monde, il y a très peu de fidélité. Hein, il y a très peu. Il y a très peu. Mais Dieu nous appelle. C'est bizarre, nous sommes appelés les fidèles. Ce n'est pas sans raison, hein? Les fidèles. Sommes-nous fidèles? Et vous savez ce que ça signifie aussi, fidèle? Exactement. Le mot fidèle vient de fides. La déclinaison latine. Donc, ça vient de la foi. Donc, le fidèle, c'est celui qui est plein de foi. Donc, le fidèle, c'est celui qui est plein de foi. Et le fidèle est fidèle parce qu'il a la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être fidèle. C'est la foi qui te rend fidèle. Donc, soyons remplis de foi, soyons des fidèles. Amen. Soyons disponibles, disposés à prendre des risques, parce que le Seigneur est avec nous et nous serons fidèles grâce à l'aide de son Esprit Saint qui est là à notre côté. Il est notre consolateur, il est notre Paraclétos. Paraclétos, ça veut dire c'est celui qui est à côté, pour défendre, pour guider, pour enseigner, pour conseiller, pour consoler, pour réconforter. Nous avons un consolateur qui est là avec nous. Jésus dit, je m'en vais, mais je ne vais pas vous laisser seul. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Et dans le grec, le mot un autre, ça veut dire c'est un autre d'une même nature. C'est pas un autre tout à fait différent, mais c'est un autre d'une même nature qui sera là pour vous enseigner, pour vous guider, pour vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Parfois, on oublie, mais le Saint-Esprit nous rappelle. Vous savez, parfois, quand je prie, il y a des... En temps ordinaire, j'oublie beaucoup de choses, mais quand je prie, le Seigneur me rappelle des choses. Je dis, ah, c'est formidable. Le Seigneur nous rappelle des gens pour qui il faut prier. Hein? Et c'est le Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.